on va commencer notre prochaine leçon sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous en sommes rendus à la deuxième et troisième épître de Jean. Alors, dans notre étude de la deuxième et de la troisième épître de Jean, nous allons examiner les points suivants. L'arrière-plan de l'épître, donc son auteur, ses destinataires, le lieu et la date de sa composition. Le contenu de l'épître, son but principal, ses thèmes et sa structure littéraire, ainsi que les plans des deux livres et quelques observations. Le premier point, l'arrière-plan de 2 Jean et de 3 Jean. Deux petites lettres, deux sœurs jumelles, comme disait Saint Jérôme, suivent dans toutes nos Bibles la première épître de Jean. Elles ont exactement le nombre de lignes que l'on pouvait écrire aisément sur une feuille de papyrus au format standard, donc 20 par 25 cm. Ce sont de réelles lettres ayant la structure classique des lettres antiques. L'auteur. La deuxième et la troisième épître de Jean ont été écrites par l'apôtre Jean. Quant au destinataire, la deuxième épître de Jean. Le destinataire de 2 Jean est Electae Curia, qui peut se traduire par la dame élue ou une dame élue, la dame Electae Curia, l'élu ou Electae Curia. Curia est le féminin de Curios, qui veut dire Seigneur. C'est un titre d'honneur, de courtoisie, qu'on retrouve dans les papyri au début des lettres adressées à des femmes. L'apôtre adresse-t-il son billet à une mère de famille chrétienne, à une dame lancée à la tête d'un groupement chrétien, ou emploie-t-il le nom dans le sens figuré pour désigner une église? Les avis sont partagés. Les uns pensent qu'il faut prendre les mots dans leur sens naturel, quand il n'y a pas d'argument contraignant qui s'y oppose. La majorité des commentateurs penchent vers le sens symbolique. Troisième épître de Jean maintenant. Cette troisième épître est adressée à un chrétien nommé Gaius. C'est la forme grecque de Caius, l'un des noms les plus courants du monde gréco-romain. Plusieurs Gaius sont nommés dans le Nouveau Testament. Mais il n'est pas possible d'identifier le destinataire de notre lettre avec l'un d'eux. C'est un chrétien fortuné qui a consacré ses biens au Seigneur. Sa maison est toujours ouverte pour les évangélistes de passage qui reçoivent de lui, outre le gîte et le couvert, l'argent nécessaire à leur voyage. Un nouveau groupe de prédicateurs itinérants, peut-être sous la conduite de Démétrius, viennent une fois de plus frapper à sa porte. Comme lettre de recommandation, ils apportent ce billet de Jean. Vu le nombre de faux docteurs qui circulent dans les églises, profitant de l'hospitalité des chrétiens, de telles lettres de recommandation devenaient indispensables. Maintenant, quant à la date et au lieu de composition, les deux épîtres ont été écrites vers l'an 90 après Jésus-Christ de la ville d'Éphèse. Deuxième point qu'on va regarder, c'est le contenu de 2 Jean et de 3 Jean. 2 Jean. Les faux docteurs avaient quitté l'Église pour former un groupe à part. À présent, ils envoient des prédicateurs itinérants dans les différentes églises pour répandre leur enseignement. L'apôtre avertit ses enfants spirituels de ne pas les recevoir pour ne pas contribuer à répandre l'erreur. Maintenant, le contenu de 3 Jean. Contrairement à la deuxième, cette épître est une lettre privée adressée à un des responsables d'une église d'Asie mineure. Elle contient un encouragement adressé au destinataire et un avertissement contre l'un des membres de son église ou le responsable d'une église voisine. Troisième point qu'on va regarder, c'est maintenant les buts de 2 Jean et de 3 Jean. Les buts de 2 Jean. Cette petite épître, petite lettre, nous est encore utile aujourd'hui pour nous mettre en garde contre une charité mal inspirée. Pas de charité pour les idées, disait Vinet. L'apôtre de l'amour nous avertit qu'un accueil trop chaleureux de ceux qui propagent les doctrines, sapant le fondement même de notre foi, risque de nous frustrer de notre récompense et nous fait partager la responsabilité des fruits empoisonnés que porte l'erreur. Pour l'apôtre, une attitude intransigeante sur le plan de la vérité n'est nullement inconciliable avec l'amour mutuel qu'il rappelle dans la même lettre. Car persévérer dans la doctrine des apôtres est la condition première de la vie d'une Église chrétienne. Maintenant, les buts de 3 Jean. Gaius a du mérite de recevoir les émissaires de Jean, car Diotrephe ne voit pas leur venue d'un bon œil. Lui-même ne veut pas les recevoir. Et pour les empêcher d'exercer une influence sur les autres, il interdit aux membres de son Église de les accueillir sous peine d'exclusion de la communauté. Jean félicite Gaius de tenir tête à ce dictateur clérical en attendant qu'il vienne lui-même lui dire son fait et le remettre à sa place. On a vu en Diotrephe l'un des premiers représentants de l'épiscopat monarchique. Il est certain qu'au second siècle, le nombre des évêques qui veulent régenter leur Église comme un centenier sa troupe ne cesse de grandir. L'instinct de domination s'empare des meilleurs d'entre eux, comme Ignace d'Antioche. Cependant, les diotrephes ne sont liés à aucune structure ecclésiastique particulière. Les formes les plus congrégationnistes connaissent des gens qui aiment jouer le premier violon. Cette lettre nous permet de jeter un coup d'œil rapide dans les églises de la fin du siècle apostolique. L'hérésie et le schisme sont deux mots qui minent les communautés. La situation ira en empirant au cours du second siècle. Les fausses doctrines et les divisions se multiplieront après la disparition du dernier des apôtres et avant la fixation du canon des Écritures. Ce billet nous donne aussi un aperçu de la vie de l'apôtre au cours des dernières années de sa vie, avant son exil à Patmos. Il nous le montre non comme un prince de l'Église entouré d'honneur, mais comme un combattant en but aux attaques des adversaires, menant la lutte sur plusieurs fronts à la fois. Les soucis, les travaux, l'humiliation même ne manquent pas. Mais Jean reste fidèle à son poste en vrai disciple de celui qui est vérité et amour. Il nous apprend par cette lettre, comme par les autres, que pour aimer selon la vérité, il faut aussi savoir prendre parti contre l'erreur et contre ceux qui la servent. Sans les gens et les Gaius, les diotrephes auraient depuis longtemps réduit l'Église à leur merci. Enfin, l'Épître nous rappelle nos devoirs envers ceux qui sont partis pour le nom de Jésus-Christ, ce que nous devons soutenir de nos dons pour collaborer avec eux à la diffusion de la vérité. On va maintenant regarder comme quatrième point les thèmes et la structure littéraire de 2 Jean et de 3 Jean. 2 Jean. La deuxième épître de Jean a beaucoup en commun avec la première, incluant un avertissement concernant le danger des faux docteurs qui nient l'incarnation de Jésus-Christ. Jean encourage ses lecteurs à continuer de marcher dans l'amour, mais les exhorte à avoir du discernement concernant l'expression de leur amour. Le livre peut être divisé en 2 parties. Demeurer en communion avec Dieu, versets 1 à 6, et ne pas demeurer en communion avec les faux docteurs, versets 7 à 13. Maintenant, 3 Jean. La troisième épître de Jean met l'emphase sur la joie de continuer à avoir de la communion avec d'autres croyants, et particulièrement avec les travailleurs chrétiens à temps plein. La vérité et l'esprit de service de Gaius, qui a exercé de l'hospitalité envers les enseignants envoyés par Jean, est contrasté avec l'erreur et l'égoïsme de Diotrephe, dont l'arrogance et le manque d'hospitalité sont des preuves de son aveuglement spirituel. Le livre se divise en 2 parties. Éloge de Gaius, versets 1 à 8, et condamnation de Diotrephe, versets 9 à 14. Alors, comme je le fais à chaque étude qu'on fait des livres de la Bible, j'ai pour les deux livres, pour 2 Jean et pour 3 Jean, il y a un plan succinct dans les notes. Ceux qui m'écoutent peuvent toujours les télécharger. Très intéressant à utiliser ces plans-là, à la fois le plan succinct et le plan détaillé, pour vous aider dans votre étude de ces livres-là. Alors, vous avez le plan succinct et le plan détaillé de 2 Jean, ainsi que le plan succinct et le plan détaillé de 3 Jean. Sixième point, on va garder quelques considérations sur la deuxième épître de Jean et la troisième épître de Jean. Alors, comme première considération, on va regarder la contribution théologique et la valeur actuelle des deux livres. Ces deux lettres nous permettent de jeter un coup d'œil dans la vie de l'apôtre Jean et dans celle des églises de la fin de l'ère apostolique. Elles furent écrites en un temps où l'Église avait à faire face à de nouveaux dangers. Les luttes dont témoignent les épîtres de Paul sont dépassées, mais de nouvelles philosophies cherchent à conquérir le christianisme et à l'absorber. L'Église luttait, mais pour maintenir son message distinctif contre sa perversion par l'erreur. L'hérésie et le schisme sont les deux mots qui minent les communautés. La situation ira en empirant. Au cours du second siècle, les fausses doctrines et les divisions se multiplieront après la disparition du dernier des apôtres et avant la fixation du canon des Écritures. Dans son grand âge, l'apôtre était souvent obligé de s'attaquer à des tâches difficiles et peu agréables, mais il s'en est acquitté avec la force et le courage que le Seigneur lui donnait. Ces deux billets nous le montrent non comme un prince de l'Église entouré d'honneur, mais comme un combattant en but aux attaques des adversaires, menant la lutte sur plusieurs fronts à la fois. Les soucis et les travaux ne manquent pas. L'humiliation même ne lui est pas épargnée, mais Jean reste fidèle à son poste, en vrai disciple de celui qui est vérité et amour. Il nous apprend par ses lettres, comme par un Jean, que pour aimer selon la vérité, il faut aussi savoir prendre parti contre l'erreur et contre ceux qui la servent. Sans les Jean et les Gaius, les Diotrephes auraient depuis longtemps réduit l'Église à leur merci. Enfin, 3 Jean nous rappelle nos devoirs envers ceux qui sont partis pour le nom de Jésus-Christ et que nous devons soutenir de nos dons pour collaborer avec eux à la diffusion de la vérité. Les deux lettres nous montrent que les églises chrétiennes de la fin du 1er siècle étaient encore bien indépendantes l'une de l'autre. Diotrephe, dans son coin, est capable de tenir tête pour un temps à l'apôtre dans la gérance de son église. Oui, mais pour un temps seulement, car l'apôtre se propose de venir et de remettre les choses en ordre. C'est là où l'analogie avec l'indépendance de nos églises locales s'arrête. Il y avait à l'époque une autorité spirituelle supralocale, capable d'intervenir dans des situations locales difficiles. Il s'agissait bien d'une autorité spirituelle et non simplement administrative. De telles instances font cruellement défaut au monde évangélique actuel, dans lesquels des conflits ravagent les églises. Ces deux lettres nous apportent aussi le témoignage du dynamisme des églises en cette fin de siècle. Elles étaient capables, et comme il semble, volontaires, pour la plupart d'entre elles, pour entretenir des missionnaires. Une part importante d'enseignement semble avoir été confiée à ces missionnaires itinérants, qui passaient d'une église à l'autre en restant quelques jours dans chaque communauté, pour enseigner les chrétiens et annoncer la parole à ceux du dehors qui étaient intéressés. Cette manière de procéder pouvait facilement donner lieu à des abus, comme en témoigne le Didaché. Le discernement spirituel d'églises majeures, comme par exemple dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, et au besoin des autorités spirituelles extérieures, pouvait y remédier. Ces deux petites lettres gardent leur valeur pour nous, car il nous montre comment l'apôtre Jean s'occupait des problèmes dans les églises. Elles sont aussi des exemples du genre de correspondance entre les chrétiens comme il devait en exister beaucoup au premier siècle. Elles n'ont pas eu un contenu théologique important, mais en nous permettant de jeter un coup d'œil dans les églises à la fin de l'ère apostolique, elles nous gardent une vision trop idéalisante de cette période. Le message de ces deux lettres est complémentaire. Elle nous montre l'importance et les limites de l'hospitalité chrétienne. 3 Jean recommande l'accueil des frères missionnaires comme un devoir qui s'impose aux personnes individuelles comme aux églises. Mais 2 Jean nous met en garde contre une hospitalité qui favorise la diffusion de fausses doctrines. Cette lettre nous est encore utile aujourd'hui pour nous mettre en garde contre une charité mal inspirée. Comme disait Vinet, pas de charité pour les idées. L'apôtre de l'amour nous avertit qu'un accueil trop chaleureux de ceux qui propagent des doctrines, sapant le fondement même de notre foi, risque de nous frustrer de notre récompense et nous fait partager les responsabilités des fruits empoisonnés que porte l'erreur. Pour l'apôtre, une attitude intransigeante sur le plan de la vérité n'est nullement inconciliable avec l'amour mutuel qu'il rappelle dans la même lettre. Les paroles de Jean contiennent un correctif très nécessaire à notre tolérance moderne trop facile, qui tolère et accueille dans la communion même, l'erreur afin de maintenir la paix et l'unité. Que de troubles auraient été évités à l'Église si cette directive avait toujours été respectée au cours des siècles et dans le temps actuel. Maintenant, on va regarder quelques applications, 3 en fait. La première, la deuxième épître de Jean nous enseigne des vérités précieuses. Une de ces vérités est que la vérité et l'amour sont indissociables. Elle nous apprend aussi que le meilleur moyen de lutte contre les faux enseignants est de les éviter et de bien connaître les Saintes Écritures. Deuxièmement, deuxième application, la troisième lettre de Jean nous rappelle que l'hospitalité envers les serviteurs de Dieu est un signe de piété et de générosité que le Seigneur ne manquera pas de récompenser. Elle nous décrit aussi l'orgueil et l'arrogance de ceux qui veulent s'ériger en dictateurs sur l'Église de Dieu. Et troisième et dernière application, les 3 épîtres de Jean sont courtes, mais remplies de leçons pratiques sur l'amour, sur la vérité, sur le service, sur l'hospitalité, sur les faux docteurs et la fausse doctrine, sur la communion avec Dieu et avec les frères et sœurs et sur la marche chrétienne en général. Implorons le Seigneur de nous donner l'amour de l'étude de sa sainte parole. Que l'Éternel soit loué, béni et adoré par toute l'armée céleste, les saints des gens sa présence, et les saints de la terre. Amen.